Si vous voulez prendre un roi, on va continuer l'histoire d'Élie. D'abord, 1 roi 17, on va relire le verset 1 que nous avions déjà lu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ensuite, 1 roi 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Sept fois, retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et le miracle que nous allons voir ce matin, c'est le miracle de pouvoir commander la météo. Les météorologistes aimeraient bien ça, hein. Je sais que les Chinois essaient de faire tomber la neige, il me semble. Ils lancent des fusées dans le ciel pour essayer de faire tomber la neige là où ils veulent, etc. Élie a pu arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il l'a demandé, eh bien, la pluie est tombée du ciel. Mais ce miracle, c'est finalement le miracle de la prière exaucée. Puisque c'est en réponse à la prière qu'Élie a pu faire ces choses. À la fois que la pluie s'arrête, hein, Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas, et Élie a prié pour que la pluie tombe. Au chapitre 17, verset 1, on l'a lu, Élie va dire à Akab, « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ça signifie que toute la vie économique et physique d'Israël, puisque tous en souffraient, dépendait de la parole d'Élie. Il détenait un pouvoir immense au travers de sa parole. Israël était tributaire de sa parole. Et on a ici une illustration du pouvoir qui réside dans la prière. Et j'aimerais voir ce matin que nous avons un immense pouvoir au travers de notre parole, ou plus exactement au travers de notre prière. On peut dire que Dieu nous a fait don d'une puissance. Une puissance immense, la puissance de la prière. Par notre parole, on peut influencer, on peut influer sur les circonstances, sur les gens même, sur des personnes. Pas que notre parole a un pouvoir quelconque, mais en parlant à Dieu, en demandant à Dieu, en priant Dieu, alors Dieu agit et change les choses. Parce qu'il y a aussi, il y a plein de domaines finalement où nous ne pouvons rien faire. On est très limité, on ne peut pas agir, on ne peut pas changer, Par exemple, déjà sur nous-mêmes, comment transformer notre caractère? Difficile, hein? Comment changer nos réactions naturelles? Comment réussir à pardonner? Difficile. Comment ôter des habitudes qui sont néfastes dans notre vie? Comment changer nos sentiments à l'égard d'une personne? Impossible. Comment extirper tout simplement le péché? On n'y arrive pas. Et si on ne peut pas se changer soi-même, combien plus une autre personne? Comment on va pouvoir faire quelque chose dans une autre personne? Comment adoucir des situations de tension? On ne peut pas. Comment agir sur des circonstances qui sont en notre défaveur? Comment peut-être influencer une décision chez quelqu'un? On est loin d'être omnipuissant comme les dieux, on est faible, hein, et il y a plein de problèmes, hein, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, hein, des problèmes personnels à l'intérieur, hein, et on est limité, on ne peut pas agir. Mais Dieu, lui, nous a accordé une puissance. Il nous a fait don d'une puissance, hein, la puissance de la prière. Et avec la prière, eh bien, l'impossible, ce qui nous est impossible, devient possible. C'est possible. On peut changer ce qui n'est pas à notre portée. Et Jésus l'a bien exprimé avec cette parole de Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et là, Jésus parle d'une chose qui est impossible, déplacer une montagne, on n'a jamais vu ça, à moins d'un tremblement de terre, hein, ou quelque chose comme ça, mais on n'a jamais vu ça. Et pourtant, il dit qu'avec un peu de foi et la prière, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Impossible, c'est incroyable. Parce que la prière, c'est la puissance que Dieu nous a accordée pour déplacer justement des montagnes. La prière fait qu'il n'y a rien qui soit impossible. On a une puissance. Mais alors comment voir cette puissance se déployer, hein? Comment la voir en action? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il faut prier. Premier point, il faut prier. Ensuite, il faut prier avec foi et il faut prier avec persévérance. Tout d'abord, il faut prier. Alors, rien de plus simple, me direz-vous, hein? C'est simple. Et pourtant, prions-nous véritablement? Est-ce que nous prions suffisamment? Est-ce que on exploite toute la puissance qu'il y a dans la prière? Est-ce que vous pouvez dire, vraiment, la prière, ça a une influence décisive dans ma vie? C'est vraiment ce qui change ma vie, la prière. La réalité, c'est que souvent, les chrétiens prient peu. Et notre prière est fébrile, elle est occasionnelle. On ne se donne pas les moyens de prier. Alors, on a une puissance, hein, et on l'exploite pas vraiment comme il faudrait. Mais pour voir Dieu agir et déployer sa puissance dans des exaucements, il n'y a rien à faire, il faut commencer par prier. Alors si on ne prie pas ou si on prie peu, posons-nous la question, mais pourquoi? Pourquoi je ne prie pas? Il peut y avoir plusieurs raisons qui empêchent de prier. Peut-être qu'on ne prie pas parce qu'on n'a jamais vraiment, vraiment essayé de prier comme il faut. On n'en a pas fait l'expérience. Alors, eh bien, voilà. Est-ce que la prière sert vraiment à quelque chose? Est-ce que Dieu vraiment, vraiment peut répondre? Celui qui a jamais reçu beaucoup d'exaucements, parfois il en doute. Hein. Parfois on a peu d'exaucements parce qu'on a peu prié. Alors on se dit, bon, ça c'est pas possible quand même. Dieu ne peut pas le faire, là. Il ne peut pas répondre à ça. Parfois, l'homme se fait une idée aussi sur la prière. Il se dit, par exemple, que Dieu répond à certaines prières, mais il y a d'autres prières où Dieu, ça ne l'intéresse pas, là. Ce n'est pas la peine que je lui demande. Non. Ça, oh oui, ça vaut le coup. Mais ça, non. Il y a aussi l'influence catholique, vous savez. Avec cette influence catholique, on remercie Dieu, mais on ne demande pas à Dieu. Non, quand même, non. On ne va pas déranger Dieu. Hein. Donc on va le laisser tranquille. Hein. Mais par contre, oh, merci Seigneur pour la pluie, le temps. Et merci. Mais ça, c'est restreindre Dieu finalement. Hein. C'est l'empêcher d'agir. Hein. Dieu veut agir, il veut se manifester. Mais voilà, si on ne demande pas, hein, si on prie pour dire merci sans jamais rien demander, ben on n'obtient jamais rien. Voilà, on ne reçoit pas. Qu'est-ce qui empêche de prier? Ce qui empêche de prier aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche de prier. On pense souvent qu'on peut s'en sortir tout seul. On va y arriver seul. Ou qu'il faut qu'on y arrive seul. Comme si Dieu ne voulait pas qu'on lui remette certains sujets. Hein. Finalement, c'est un esprit d'indépendance aussi. Hein. Il y a un esprit d'indépendance dans nos cœurs qui fait « bon, je vais le faire tout seul ». Ce n'est pas qu'on réfléchit « je vais le faire tout seul, je ne vais pas le demander à Dieu », non. Mais c'est qu'on le fait sans Dieu. On ne se pose même pas la question. On le fait sans Dieu. Combien de fois j'ai commencé quelque chose et puis jusqu'à le gâcher parfois ou le rater, puis après dire « mince, mais c'est vrai, pourquoi je ne demande pas à Dieu ?» Et finalement, je suis obligé, quoi, là. Je suis dans l'impasse. Alors, eh bien, oh Seigneur, vous en avez fait l'expérience. On en fait tous l'expérience. Hein. On avance, on fait tout seul, on se coince le doigt, et puis après on dit « mince, c'est vrai. Seigneur, pardon, secours-moi, aide-moi. » On compte sur soi-même. On a besoin de nous prouver, hein. On peut faire sans Dieu. Là, je vais y arriver. Mais s'il y a des choses, c'est vrai, Dieu nous laisse les faire seuls, il permet aussi des impasses. Il dit, ben vas-y, fais tout seul, fais tout seul. Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas. L'orgueil, c'est un obstacle à la prière. L'orgueil empêche raisonnablement de s'adonner à la prière. On peut dire qu'il y a une troisième chose qui empêche de prier, c'est la paresse. La paresse. Parce que prier, ça demande du temps. Ça demande un investissement, hein, ça demande de la concentration, ça demande de l'énergie, et on n'est pas toujours prêt à consacrer le temps nécessaire à la prière. Je me souviens de quelqu'un qui priait pour sa famille tous les jours. Vous savez comment il priait ? Il priait « Seigneur, bénis ma famille. » C'est bien, mais c'est court. C'est pas vraiment un investissement, là. Hein. C'est plutôt restreint, là. Hein. Ah oui, ben, c'est vague. C'est vague. Ça peut devenir aussi une phrase, une répétition, parfois un peu superstitieuse. Hein. Ça n'a rien à voir avec la prière efficace du juste, comme dit la parole de Dieu. C'est une prière qui est incisive, qui implique l'âme, c'est le cœur. On est tout entier, on se donne, on prie, on plaide, on réclame. La paresse, elle nous pousse à prier le minimum. Elle nous empêche de diversifier nos prières. Elle écourte notre intercession. On commence à peine et hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai autre chose à faire. Mais si on veut voir la puissance de Dieu se déployer, il n'y a rien à faire. Pour voir les montagnes bouger, il faut s'en donner les moyens. 1 Roi 18, 42. Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ça faisait 3 ans et demi que c'était la sécheresse. Le ciel était d'un bleu impeccable. Donc, il fallait un miracle vraiment pour que cet état de choses puisse changer. Alors, Élie choisit son endroit. Il est monté au sommet du Carmel. Il choisit sa position. Il se penche visage contre terre, entre les genoux. Et là, dans cette position, à cet endroit, Élie est prêt à demander que Dieu agisse. Et peut-être qu'on ne prie pas parce qu'on n'a pas trouvé ou pas cherché le bon moment, le bon endroit pour prier. C'est important ça, hein? C'est important. Daniel priait dans sa chambre, fenêtre ouverte, tournée vers Jérusalem. Jésus priait la nuit. Trop occupé le jour, s'isoler la nuit, souvent sur une hauteur. Beaucoup d'hommes du passé ou des mères de famille du passé priaient tôt le matin, très tôt. Pour ma part, je vous dirais que je me sens très renouvelé dans la prière en ce moment parce que j'ai trouvé mon endroit. J'ai trouvé un petit plan d'eau là. Hop, je vais m'isoler. Je tourne autour de ce plan d'eau en marchant. Et je peux vous dire que là, j'ai 100% de mon attention à Dieu. Je suis pas en train de dormir. Et Dieu est 100% avec moi. Trouver son endroit. Vous savez, en marchant aussi, et pouvoir parler, exprimer à Dieu, hein, quand on parle, c'est le cœur qui s'exprime. Maintenant, si on n'a pas l'endroit, on n'a pas le moment, et on ne cherche pas à avoir le moment, hein, ben voilà, ah, je peux pas parce qu'il y a trop de bruit, ah, je peux pas parce qu'il y a des choses qui dérangent, je peux pas parce que j'ai pas le temps, je peux... Et finalement, on prie pas, on prie pas. Il faut peut-être chercher, mais où puis-je prier comme il faut, vraiment? Et Dieu aura tout mon cœur, toute mon âme. Et on n'est pas tous identiques. On a des vies différentes, on a des activités différentes. Hein. Et il n'y a pas un modèle qui est figé avec Dieu. On voit même les hommes de la Bible, hein, ont prié de manière tout à fait différente dans la Bible. Hein. Certains étaient comme ci, d'autres étaient comme ça. David a prié aussi allongé, à des endroits complètement différents. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon moment, l'endroit favorable, un moment où on ne dort pas, où on ne somnole pas, un moment où Dieu a toute notre concentration. Peut-être c'est ça qui vous manque. L'apôtre Jacques a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et c'est un malheur, hein? On a puissance, mais rien. On est souvent pauvre, alors que on a des richesses. Hein? On peut avoir des richesses, on possède peu, peu d'exhaussement, parce qu'on ne demande pas suffisamment. Et il n'y a rien à faire, donc pour voir Dieu se manifester, ben, il faut commencer par prier. Ensuite, il faut prier avec foi. Et la motivation de prier, elle vient du fait que l'on croit que Dieu va exaucer la prière qu'on est en train de lui adresser. Et pourquoi le croit-on? D'abord parce que Dieu le dit. Il le dit. Les invitations à prier pour recevoir de Dieu, elles sont nombreuses dans la Bible. Hein? Dieu n'arrête pas de nous le dire. Hein? Énormément de promesses affirmant que Dieu répond à la prière. Il nous pousse à prier. Alors vous connaissez pour beaucoup ces promesses. Hein? Quand il dit demandez et l'on vous donnera. C'est simple. Il n'y a pas plus simple. Mais demandez. Faut demander. Faut vraiment demander. Ou bien il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce n'est pas des promesses électorales, hein. C'est des promesses de la parole du Dieu qui ne ment pas. Dieu est le Dieu qui ne ment pas. Et si on demande selon sa volonté, si on prie d'une manière sérieuse, et pour des choses sérieuses, hein. On prie pour le royaume de Dieu, on prie pour la transformation de nos vies, la transformation des vies de nos frères et sœurs, pour l'avancée de l'Église, pour la conversion des âmes, pour la sanctification de la famille. Alors, eh bien, nous savons que nous possédons ces choses que nous lui avons demandées. Parce que c'est dans sa volonté, il veut ces choses. Alors bien sûr, si notre prière, elle est petite et elle est centrée sur des faux besoins, ça peut arriver ça, hein? Sur des passions, sur des désirs injustifiés, à ce moment-là, eh bien, on va pas voir l'exaucement. Le demander et l'on vous donnera, ça signifie pas demander tout ce qui vous passe par la tête et vous le recevrez. C'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Mais si on prie pour des choses véritables, hein, si on prie la pensée de Dieu, et Dieu veut nous inspirer plein de prières, hein, des choses qui sont dans sa pensée. Il voudrait que ça arrive, que ça arrive, que ça arrive. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le prie, qu'on lui réclame. Alors, eh bien, tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église et dans le monde. Et c'est là où il est possible de prier avec foi. Prier des choses qui comptent, qui pèsent, qui sont sérieuses, importantes. Ça donne une grande assurance dans la prière. C'est ça qui... Voilà, on prie, mais on sait. On se dit, mais oui, Dieu va exaucer. C'est évidemment qu'il va exaucer. Ensuite, on peut prier avec foi aussi, hein, et ça suscite la foi, en regardant à tous les chrétiens et les hommes de Dieu du passé. Tous nos prédécesseurs qui prièrent avec foi, qui ont obtenu l'exaucement, hein. L'exemple, c'est quelque chose de très stimulant. Lorsqu'on voit un George Muller, Adoniram Judson, Hudson Taylor, John Wesley, ils prient pour des choses incroyables et ils voient l'exaucement à ces prières. Finalement, de lire une biographie, hein, on se dit, mais oui, lui, il priait pour ça, oui, Dieu lui a donné, et Dieu a fait ça, et Dieu a fait ça, mais oui, mais Dieu répond, il est toujours le même. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. Hein. Il y a des millions de chrétiens avant nous qui ont expérimenté la prière dans la vie quotidienne. Certains diront peut-être, oui, mais bon, ben, ces hommes-là, quand même, c'était des hommes spéciaux. Hein. Quand on regarde un peu leur vie, des hommes peut-être plus pieux, plus saints que moi. C'est pour ça que Dieu les exaucait. Mais Dieu dit non. Non. Il le dit dans la parole, il le dit dans l'épître de Jacques. Regardez Jacques. Jacques chapitre 5, 17 et 18. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et George Muller ou un autre, hein, c'était des hommes de la même nature que nous. Ils sont pareils. On est pareils qu'eux, ils étaient pareils que nous, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes découragements, identiques. Dieu nous dit ici, Élie était comme nous. Il était fait de chair. Hein? Et il avait aussi ses faiblesses. Peut-être la différence avec nous, c'est qu'ils priaient. Eux, ils priaient. Alors, ben, ils recevaient. Et nous, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il priait la pensée de Dieu, il priait la volonté de Dieu, et Dieu exaucait. On peut... Exemple dans la Bible, c'est très instructif. Hein? Esther, par exemple, elle a prié hein, durant 3 jours. Il y avait le peuple juif aussi qui priait, mais elle a prié pendant 3 jours que Dieu sauve le peuple qui était condamné. Les Israélites allaient être exterminés. Et Dieu a exaucé. Il a entendu la prière. Dernièrement, à un culte, on a parlé un petit peu de Jabez, qui voulait être épargné de la souffrance. Vous vous souvenez? Il a prié, il a fait monter sa prière à Dieu. Il est dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Anne était dans la souffrance à cause de la stérilité. Certainement pendant des années, elle a imploré Dieu. Et finalement, au temple, Dieu a exaucé, il lui a donné Samuel. Samson, même après sa chute, Dieu l'a secouru quand il a réclamé, « Ô Dieu, aide-moi à me venger des Philistins qui m'ont pris mes 2 yeux. » Dieu a exaucé, pourtant, Samson. Même, vous savez, quelqu'un de rétrograde, hein, mais qui se repent, Dieu exauce. Ézéchias était sur le point de mourir. Il a prié que Dieu se souvienne de lui. Ô Dieu, prolonge ma vie. Dieu a exaucé. Ézéchias a vécu encore plusieurs années. Manassé, déporté à Babylone, dans la misère, il se repent, il pleure. Dieu le ramène et le remet sur son trône. Étienne, prie le Seigneur alors qu'il est lapidé. Il s'endort paisiblement et il entre dans l'éternité. Corneille n'arrête pas de présenter des prières à Dieu avec ses aumônes. Et Dieu lui envoie Pierre. Il lui dit, mais tes prières ont été entendues. Pierre lui-même est emprisonné. L'Église est en train de prier. Dieu délivre Pierre. Et Pierre sort comme une fleur, comme ça. Paul et Silas prient, chantent des cantiques. Dieu les délivre miraculeusement et même une conversion. Le geôlier. Est-ce que toutes ces personnes, elles avaient plus de mérite que nous? Non. Même parfois, hein, il y avait des personnes qui étaient pires, bien pires que nous, hein, au regard du péché. De la même nature que nous, mais elles ont prié. Elles ont demandé. Et Dieu entend quand on lui demande. Mais il faut lui demander. Simplement prier. Et c'est quelque chose qui doit nous encourager aujourd'hui. Hein. Nous aussi, il faut qu'on prie, qu'on réclame avec foi. Le fait que le Seigneur ait dit qu'il fallait de la foi comme un grain de sénévé pour déplacer une montagne, je trouve ça très encourageant. Si Dieu avait dit qu'il faut la foi comme une pastèque, mais non, il dit non, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Et des fois, on ne lui demande même pas de déplacer une montagne. Ça veut dire qu'une tête d'épingle de foi, ça suffit pour que Dieu fasse quelque chose. Mais il faut que la foi soit présente. Il faut qu'elle existe. Si elle n'existe pas, si elle ne se manifeste pas, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'on a une puissance, une pointe de foi. Et finalement, c'est la prière hein, qui témoigne aussi de notre incrédulité ou de notre foi. Si je crois, je demande. Si je ne crois pas, je ne demande pas. Donc, prier déjà, c'est exprimer sa foi. Prier avec cœur, prier avec espérance. Mais il y a encore quelque chose à nous enseigner sur la prière. 1 Roi 18, verset 43. Élie dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » Et si Dieu exauce assurément tout ce qui est dans sa volonté, il faut souvent une prière qui est persévérante. Les paresseux se lassent, les orgueilleux n'essayent même pas ou abandonnent rapidement, mais ceux qui prient sérieusement persévèrent dans la prière. Il faut prier avec foi et il faut prier avec persévérance. Le serviteur est revenu vers Élie, il a dit une première fois, « Il n'y a rien. » Est-ce que ça signifiait que Dieu ne faisait rien? Non. Probablement, Dieu était déjà en train de mettre tous les éléments atmosphériques qui préparent la pluie. Hein? Parce qu'il faut, il y a des choses, hein, je ne suis pas météorologiste, hein, mais voilà, il faut tout préparer. Hein? Et Dieu déjà était en train de préparer. Et peut-être qu'il y a eu un premier mouvement d'air et d'évaporation, je ne sais pas. Mais à vue humaine, il n'y avait rien. C'était pareil. Hein? Pas une brume, rien du tout. Rien de visible, rien de concret. Et nous aussi, on peut avoir le sentiment, mais il n'y a rien. J'ai prié pourtant, hein. Il n'y a rien du tout. Les choses n'ont pas changé. Les circonstances semblent exactement comme hier. Il n'y a rien. Mais c'est ça aussi la foi. Hein. Élie ne s'arrête pas de prier dans le doute, en se disant, ah oh, mince, il n'a pas déjà répondu. Bon, peut-être que Dieu ne veut pas, en fait. Et puis, bon, ben, j'arrête de prier. Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la peine. Je reviendrai un autre jour. Mais non, parce que Élie avait l'autorité de prier. Dieu lui avait donné cette autorité de prier et de prier pour la pluie. Et il sait qu'il a cette autorité. Et quand on est dans la volonté de Dieu et que l'on sait que ce que l'on prie, ben, c'est ce que Dieu veut, on a l'autorité de le demander. Donc le fait qu'on ne voit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Dieu va le faire, puisque c'est dans sa volonté. Élie a persévéré. Et on a l'autorité aussi dans la prière, pour persévérer. Et Dieu veut qu'on persévère. Et Élie a martelé sa prière finalement. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève avec espérance. Il envoie son serviteur. À chaque fois, il se relève avec espérance. Ça veut dire qu'il attend l'exaucement. Et c'est quelque chose qu'on peut souligner, hein. La prière fervente, c'est une prière qui est constamment dans l'attente. On est là, ça va arriver, ça va arriver. C'est une prière qui prévoit l'exaucement. Il y a un mélange d'espérance et de persévérance, les deux en même temps. Et c'est justement cette attente, cette espérance de l'exaucement qui permet qu'on soit toujours dans le combat et dans la lutte. On est là, on attend, non, toujours pas, bon, allez, on recommence de plus belle, encore une fois. Celui qui n'attend pas quelque chose, il perd sa flamme, il perd son ardeur. C'est là où on arrive à une prière répétitive, « Seigneur, bénis un tel ». C'est mort, parce qu'on n'attend pas finalement, hein. On n'attend rien. Ça devient vite monotone, sans relief, hein. On accomplit son devoir, hein. Alors que quand on attend l'exaucement, on plaide là, on réclame et on revient et « Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur » et ça nous pousse parfois jusqu'à la supplication. C'est là où on supplie. Parce qu'on l'attend vraiment. On le veut vraiment. Alors, eh bien, on supplie. Celui qui ne met pas son cœur, il n'arrive jamais à la supplication. Et je vous l'avais dit dans une autre étude, je crois, hein, pas à chaque fois, mais presque à chaque fois qu'il y a une exhortation à la prière, il est parlé de supplication. La supplication, ça devrait faire partie aussi de notre vie. C'est ça, prier avec cœur. Arrive un moment où, ça y est, c'est mûr. C'est mûr pour la supplication. Et on est dans le combat. Et on obtient. Est-ce que vous priez souvent comme cela? Je veux dire avec votre cœur, vraiment. Est-ce que vous priez souvent comme cela? Il ne faut pas douter que ça, c'est la prière que Dieu attend de nous. S'attendre à l'exaucement, persévérer et espérer. Dieu nous a fait don d'une puissance, hein, et la prière, c'est comme un levier. Hein. Je voulais trouver une illustration, je ne savais pas comment expliquer ça, mais vous voyez, des fois, il y a des leviers. C'est un petit levier, vous faites ça, mais c'est démultiplié parce qu'il y a des rouages, etc. Et vous pouvez bouger quelque chose d'énorme. Eh bien, c'est ça la prière finalement. Hein. On est une petite personne, on prie avec notre petite voix, mais on est en train de bouger quelque chose d'énorme parce qu'il y a Dieu qui est derrière. Et Dieu exauce. Mais il faut prier, c'est première chose, hein. Il faut commencer. Il faut prier avec foi et il faut prier d'une manière persévérante. Verset 44, à la septième fois, le serviteur dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » C'était pas grand-chose, mais là, Élie dit « Ça y est, c'est gagné. » Et il est dit « En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. » Et j'aimerais dire une dernière chose. C'est verset 46. « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Donc, Akab part, hein, et Élie va courir, il va devancer Akab. Et il y a l'idée d'ici d'être devant. Et j'aimerais dire que ceux qui prient, ce sont ceux qui sont devant. Ils sont déjà dans ce qui va se passer. Ils devancent les autres, hein, quand on prie. On voit avec la pensée de Dieu qu'est-ce que Dieu va faire. Et on est devant. On n'est pas derrière, à la traîne, en subissant ce qui nous arrive. Non, on est en train de regarder devant. Et on agit déjà dans le futur. Alors, eh bien, qu'on puisse prier. Vraiment, pensez à un endroit, pensez à un moment. Changez vos habitudes. Bouleverser tout, hein. Si ça ne va pas comme ça, c'est pas grave, on change, on fait autrement. Le but, c'est de trouver vraiment, voilà, ça c'est mon moment avec Dieu, chaque semaine, chaque jour si c'est possible, que vraiment nous intercédions. Prions pour des choses qui comptent. Faisons changer les choses. On va s'incliner dans la prière.